Préparez vos valises. Thierry Georges vous propose une nouvelle escale sonore dans Suivez le guide.
Dégémermat et Braise, bienvenue en Bretagne.
C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. La péninsule bretonne est située entre la Manche au nord, la mer Celtique et la mer d'Iroise à l'ouest, le golfe de Gascogne au sud. Elle forme ainsi le sommet nord-ouest de l'hexagone français. Le nom de Bretagne est issu du latin Britannia, utilisé dès le 1er siècle par les Romains pour désigner la Bretagne insulaire ou Grande Bretagne. La Bretagne, ce sont 4 départements, 22 les Côtes d'Armor, 29 le Finistère, 35 Ille-et-Vilaine et 56 le Morbihan. Suivez le guide réalise presque un sans faute, 3 sur 4 pour la série, mais le Finistère seul pour ce nouveau rendez-vous. En partie nature, nous retrouverons sur la presqu'île de Crozon Serge Kergoat, ornithologue, dessinateur, photographe animalier, auteur de livres sur les oiseaux. 2 autres rencontres, l'une inattendue, tout comme son sujet, également sur la presqu'île, Muriel pour évoquer Armand Peugeot. Et nous terminerons ce Suivez le guide avec un chef aubergiste doublement étoilé, Olivier Belin, devant son auberge des Glaziques à Plomodierne.
Bonjour, je suis Serge Kergoat, je suis ce qu'on appelle un ornitho de terrain.
Un ornithologue?
Non, ornithorynx. En fait, je ne suis pas un scientifique, mais je travaille...
On dit ornitho, ça suffit.
Voilà, c'est ouais. Ça, ouais. Moi, ça me semble plus un terme plus rond qui va bien avec ce que j'essaye de présenter. Donc, je circule un petit peu dans le coin pour présenter un petit peu au public ce qu'on peut trouver encore comme oiseau et puis essayer de les rallier à la cause environnementale. Voilà.
On ne dira pas à Serge Kergoat qu'il n'y a pas d'oiseaux ici. Normalement, on les entend chanter.
Voilà, oui, on les entend chanter. C'est un pinson des arbres.
Là. Moi, j'entends un chant d'oiseau. Vous pouvez immédiatement identifier de quel oiseau il s'agit.
Oui, c'est un pinson des arbres, oui. Je ne sais pas trop comment formuler ça. C'est-à-dire qu'on a eu un tel temps, beaucoup de pluie, temps un petit peu pourri, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas dire qu'il pleut en Bretagne, ce n'est pas ce que vous aimez. J'ai été piégé, tant que pour moi, voilà.
Ah bon ? Il pleut en Bretagne ?
Non, je ne pas. Non. La nature, ici, vous voyez, la végétation, elle est formidable, elle a poussé,
elle est luxuriante, là. C'est un peu, c'est la jungle, là.
C'est très, très chouette. Et d'un autre côté, ben, les oiseaux, on a l'impression qu'ils ont, entre autres, les oiseaux, je ne sais pas pour les autres, mais ont un petit peu du retard, qu'ils n'ont pas pu former les couples ou que les conditions n'étaient pas réunies. Parce que vous imaginez, avec tout ce qu'on a eu en pluie ces derniers temps, où le vent, ben, vous êtes sur un nid, vous êtes en train de couver, ça doit être moyen, quoi, parce que vous avez, ou alors il faut aller mettre un petit parapluie au-dessus de l'oiseau. Ça me fait penser à une histoire qui était une vraie histoire. Il y a quelques années de ça, on avait un merle qui nichait. On a une petite cour chez nous qui doit faire 10 mètres carrés. On a un arbre là-dedans et puis un peu de végétation. On avait une merlette qui couvait et il pleuvait. Et ma femme, elle dit, on ne va pas la laisser là, elle va mourir sur ses œufs. Et on s'était débrouillé pour lui mettre un petit parapluie au-dessus de son nid. Ça a été super parce qu'elle a eu ses petits.
Donc ça a été un petit coin de paradis, le petit coin de parapluie. Hein.
Voilà, avec Georges Brassens, bien entendu.
Quelles espèces peut-on rencontrer ici, sur cette presqu'île de Crozon?
On a un oiseau que j'aime beaucoup ici, sur la presqu'île, pas ici où on est, mais qui est la fauvette pitchou. Qui est un oiseau que l'on trouve, ben là par exemple j'y suis allé 4 ou 5 fois là, courant avril, fin mars, pour essayer de voir s'il en restait un petit peu. J'en avais pas trouvé, donc j'étais vraiment chagriné. Et puis là, hier, je suis retourné faire un tour, et ben, comme il faisait beau à peu près hier, ben, tout le monde s'est mis à chanter, comme on entend, on vient d'entendre. Là, tout le monde s'est un petit peu, on a l'impression que ça se rattrape, ça chante, ça essaye de dire ben, « Coucou, je suis là », ou pour une copine.
Coucou, c'est nous.
Voilà. Et donc, du coup, ben, j'ai trouvé... une fauvette pitchou en train de chanter. Puis après, bon, comme elle s'était mise à chanter, elle a attiré d'autres. Du coup, j'ai aperçu 4-5 fauvettes pitchou, dont une avec une chenille dans le bec. Donc, en général, ils avalent tout de suite leur proie quand ils l'attrapent. Et du
donc,
coup,
c'est que pas pour elle-même.
Non, du coup, je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre, elle a peut-être commencé à nicher.
Donc tous ces chemins-là, vous les connaissez par cœur. On est parti de ce qui était une gare.
Oui.
Qui reliait le fret ici.
Le but, c'est d'aller sur Brest ou de rayonner sur les autres lignes, après Quimper et tout ça. Et donc, la ligne, elle allait à Camaret. On est effectivement en train de marcher sur l'ancien voie ferrée.
Il n'y a plus les rails. Hein.
Non, il n'y a plus les rails. Mais, et puis donc, tout à l'heure, on parlait du fret qui avait été, dans les années 30, une grosse plateforme où beaucoup de bateaux venaient décharger du sable, des matériaux, des cailloux, enfin des pierres, enfin bref.
Alors, ils venaient décharger du fret, mais le nom vient de là ?
Je pense qu'il y avait un petit quelque chose, faudrait vérifier. Ouais, hein, ouais. Parce que là, on se laisse emporter par nos rebonds poétiques, mais bon, voilà, faut peut-être quand même vérifier le sujet.
Le fret, après enquête, dès le début du XVIIIe siècle, un petit quartier portuaire, composé essentiellement de magasins et de dépôts, existe au fret. Est-ce l'origine du nom ? C'est une piste. Si l'une ou l'un des 171 habitants du fret connaît la réponse, je l'ajouterai dans un futur Director's Cut.
Donc là, vous n'avez pas votre appareil photo, vos appareils photo. Il y a des sorties où vous prenez l'appareil ou les appareils, je ne sais pas. Mmh. Et puis d'autres où simplement les jumelles, et puis d'autres les touristes.
Oui, en fait, quand je me promène avec un groupe, j'ai rarement mon appareil photo.
Ça ne s'y prête pas.
Voilà, non, parce que...
Et puis vous ne photographiez pas le groupe et les touristes.
J'ai des groupes qui vont de 10 personnes à 20 personnes. Et puis j'ai 5 lieux que je fréquente de façon quotidienne. Là, tout à l'heure, on aurait pu descendre et rejoindre le bord de l'étang. Là, on aurait sans doute trouvé des oiseaux, un peu plus de roseaux. J'essaye de présenter au grand public 5 milieux différents, de façon à sensibiliser à ces différentes populations que les gens ne voient sans doute pas, parce que quand on n'est pas attentif, on ne voit pas les choses. Hein.
On peut regarder sans voir, oui.
On a tellement de promenades qu'on fait avec un écouteur sur les oreilles, ou avec de la musique, ou avec autre chose. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas cette relation. Là, on entend un grillon, par exemple. Bon, si on prenait un peu de temps pour essayer de trouver son trou et de voir où il est en train de chanter, bon, moi, je ne fais pas de son.
Alors déjà, si on entend un grillon, on ne lève pas les yeux, on baisse les yeux.
Il faut regarder au sol. Le grillon, il n'est pas perché, c'est pas une cigale, quoi. Donc, c'est pas sur un tronc d'arbre. Il faut prendre un peu de temps, écouter, regarder. Et, par exemple, on marche sur la partie un petit peu sableuse du chemin. Bon, tout à l'heure,
Il y a des vélos, etc.
Il y a du monde qui passe en vélo, il y a du monde qui passe à pied, puis il y a des chenilles qu'on regarde, on peut voir tout un ensemble de choses ou d'insectes qui se baladent sur le chemin. Là, on va croiser un petit ruisseau. On entend le clapotis de l'eau. Hein. Tous ces ruisseaux-là, il faudrait les entretenir. Ouais. D'ici un mois, peut-être, s'il n'y a pas de nouvelles pluies, ça sera sans doute asséché. Quoi.
Donc, alors, et les sorties photo ?
Hier, j'avais une, par exemple. On a passé notre temps sur le terrain à essayer de faire des exercices de prise de vue. Moi, je pratique la billboard, c'est-à-dire je ne fais pas d'affût ou très peu, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'une part marcher, de rencontrer une espèce, et puis... un peu comme on rencontre des humains, il y a des espèces, tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, elle va s'arrêter, s'occuper un petit peu de vous, vous regarder, et puis du coup, vous allez pouvoir faire quelques clichés. Et puis, il y a des espèces que vous ne rencontrez pas, parce qu'elles ne sont pas décidées à vous rencontrer. Voilà, c'est un petit peu, moi, ça, mon approche. Je pars sans idée préconçue, et j'espère qu'une rencontre aura lieu. Si elle n'a pas lieu, ce n'est pas bien grave. Hein.
Vous rencontrez plus souvent certaines espèces que d'autres ?
Ah, pas forcément.
Pas forcément.
Non, pas forcément. Là, par exemple, hier soir, on a trouvé la fauvette pitchou. Quand on est arrivé sur le site du château Saint-Paul-Roux, donc Saint-Paul-Roux qui est aussi la famille Peugeot, mais Saint-Paul-Roux fait partie d'un groupe d'artistes qui est arrivé, lui, venait de Marseille.
Mais alors, et l'affût, ça vous plaît moins?
Oui, parce que c'est pas ma façon de fonctionner. En fait, je pense que l'oiseau qui est là, il sait que je suis là, il accepte la rencontre ou pas. S'il accepte pas, ben il y a pas de rencontre et puis c'est tout. Oui. Mais s'il l'accepte, ben
vous n'allez pas vous cacher.
Non, voilà. Après, je respecte complètement le travail et ce que font les autres photographes, mais moi c'est pas du tout ma façon de fonctionner. Demain, je vais essayer d'aller voir les macareux. On va aux Sept Îles sur un bateau. Bon ben, le macareux est un oiseau pour lequel j'ai une affection un peu particulière. Et que j'appelle mon petit frère, parce que c'est comme ça que je le ressens. Je ne peux pas passer une année sans voir un macareux. Je crois que je n'irai pas bien dans ma tête.
Ah ouais. Et vous sortez 7 jours sur 7?
Non, je ne sors pas 7 jours sur 7.
Vous octroyez un week-end? Enfin, voilà, une journée.
Oui, parce qu'en plus, bon, on est quand même à 2h15 d'ici.
Ah.
Donc en voiture, ça fait du trajet. Après, on va prendre un vieux gréement qui s'appelle le Zandguirec, hein, sur lequel on va embarquer. Et donc, qui est un bateau qui est tenu par Laurence, hein, qui est une amie. Bon, c'est un bateau sur lequel j'embarque depuis 2005, je crois, ou quelque chose comme ça. En gros, j'y vais 5-6 fois par an, 7 fois par an, sur ce bateau pour aller rencontrer les macareux et les pingouins tordas des Sept-Îles.
Ah ouais. Pendant le confinement, vous pouviez sortir alors?
Je ne suis pas sorti beaucoup. Bon, j'aurais pu utiliser ma capacité professionnelle à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais tenir une espèce de solidarité par rapport aux gens qui
étaient vraiment enfermés.
Ouais, qui étaient enfermés. Donc du coup, j'ai dû sortir deux fois, je crois. Ça m'a permis de trouver dans le port du fret, là, qu'on a quitté tout à l'heure, de trouver l'Eider à duvet. Je me suis dit, même à un moment donné, ils vont peut-être nicher par là. C'est vrai que le Covid et l'absence des humains sur beaucoup d'endroits, tout de suite, la nature, on voit qu'elle se réinstalle. Quoi. Ouais. Dans les rues à Camaret, il y avait de la linotte mélodieuse. Sur la pelouse autour de la tour Vauban, il y avait des craves à bec rouge.
Et alors, ce que vous avez fait pendant le confinement, je dis ça, c'est peut-être ça, hein, vous avez trié et rangé vos photos.
Ah là 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 là, oui, c'est vrai. Il faut dire qu'il fallait faire parce que... Bon.
Ça tombait bien.
Mais j'ai pas fait que ça, c'est-à-dire que j'ai fait un petit livre qui s'appelle 55 jours à l'ombre de la couronne et qui était une espèce de petit clin d'œil aux 55 jours de Pékin, qui était un film des années 50, 60, je sais plus, hein, et que j'avais trouvé très intéressant sur, on va dire, une espèce d'acte de positionnement de la Chine et de rapport entre la Chine et l'Occident. Enfin bon, bref, j'y avais vu une espèce de message un peu bizarre en disant « ça m'étonne pas qu'aujourd'hui on ait des difficultés de relations avec des Chinois vu comment on avait géré les choses à l'époque ». Enfin bon, ça c'est complètement personnel. Et du coup, j'ai fait un petit bouquin avec l'actualité du jour, puisqu'en fait, dans notre rue, là où j'habite à Camaret, tous les jours à 11h, on sortait sur le pas de notre porte avec notre mug de café ou d'eau ou de thé pour ceux qui voulaient. Et puis, on échangeait sur l'actualité. Et à chaque fois, je faisais un dessin. Et du coup, ben, à la fin du Covid, des 55 jours, j'en ai fait un petit livre qui est très un peu provocateur et un peu questionnant sur cette période. Voilà. Mais ça a été mon acte de résistance ou je ne sais pas quoi. Ouais.
Poursuivons la balade dans le Finistère avec Serge Kergoat sur la presqu'île de Crozon.
Ulit à Neschar et Breiz. Suivez le guide en Bretagne.
C'est quoi, Serge, quand vous faites une belle rencontre?
Pour moi, c'est la notion d'échange, c'est-à-dire qu'il y a un être vivant qui s'adresse à un autre, pas forcément de façon compréhensible. L'oiseau ou l'animal semble être en train de vous raconter une histoire. Bon, alors je sais que bien des gens... quand je raconte ça, se disent il a un peu fumé la moquette. Bon, de toute façon, vous savez de maintenant que vous m'avez interviewé que c'est vrai, je fume vraiment la moquette. Et donc voilà, mais c'est ça, c'est cette espèce d'échange. Il y a quelque chose, il y a une proximité, il y a de la bienveillance des deux côtés. Et du coup, il y a une proximité qui se met en place. Je vais juste vous citer un truc. C'est au mois de juin l'année dernière, j'étais au Varanger, en face du Cap Nord. très haut. On était à quoi, 50
mais alors donc, c'est pas en Bretagne.
Non, c'est pas en Bretagne. Mais voilà. Il y a un oiseau qui était un guillemot, et puis il est sorti de l'eau, il avait un poisson dans le bec, et puis donc il s'est mis dans la colonie. Puis moi, j'étais en train de les regarder, je les photographiais même pas. À quoi, 7-8 mètres, puisque il y a une grande proximité. L'oiseau est sorti du rang avec son poisson, et puis il est venu vers moi. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait. J'ai dit bon, voilà. J'ai même commencé à reculer un peu, parce que j'ai dit peut-être que je le dérange, ou je sais pas quoi. Et puis donc il s'est avancé vers moi, et puis il a cogné avec son poisson contre ma jambe.
Et vous voulez dire qu'il vous a offert son poisson ?
Bah, je sais pas, c'est ce que j'appelle une rencontre. C'est-à-dire, moi, ça me laisse beaucoup de questions. Et puis surtout, ça me remet peut-être quelque part à ma place en tant qu'être vivant au milieu d'autres vivants.
Mais diriez-vous que vous dialoguez parfois vraiment avec les oiseaux ?
J'aimerais bien, mais ça ressemble à du dialogue, sauf que c'est ce que je dis, vous savez, dans les êtres humains, vous croisez quelqu'un, vous ne l'avez jamais vu, et vous ne savez pas pourquoi, vos deux yeux des deux côtés se croisent, et soit il y a une espèce d'indifférence complète, ça on laisse passer, soit des fois il y a une haine, vous ne savez pas pourquoi, tout d'un coup il y a une violence qui apparaît dans le regard. Et puis d'autres fois, ben, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez des gens, tout d'un coup, il se passe quelque chose, vous avez l'impression que vous connaissez ces personnes depuis la nuit des temps et que vous les avez presque jamais quittées. Enfin, c'est assez bizarre. Et ben, chez les animaux, moi, je trouve qu'il y a ce genre de choses aussi.
Alors, vous reconnaissez les oiseaux de chaque espèce, mais est-ce que parfois vous vous dites « celui-là précisément, je l'ai déjà rencontré ».
Non, je n'ai pas cette... parce qu'il faudrait vraiment rentrer dans un détail. Quand on a des oiseaux qui sont bagués et qu'éventuellement oui. On sait qu'on les a... Mais
on peut les identifier.
Voilà, les identifier. On est ici à côté de l'étang, là. Donc on a l'eau qui s'évacue un petit peu. Et à marée haute, il y a deux ans, pendant le Covid, j'ai eu une rencontre avec un plongeon imbrun.
Un plongeon imbrun ou plongeon huard de la famille des gaviformes, aussi gros qu'une oie.
Je venais là régulièrement, il venait tranquillement et puis il se mettait à pêcher sous mes yeux des crabes. Alors c'était un peu, pour le crabe c'était pas sympa parce qu'il lui cassait les pattes les unes par une et puis finissait par avaler le corps. Moi, j'étais assis sur le banc qui est juste derrière nous et puis je regardais ce spectacle. C'était vraiment extraordinaire parce qu'on sentait que l'oiseau n'avait pas peur de moi et qu'il y avait oui, une espèce de connivence, d'observation. Alors, de temps en temps, je faisais des photos. D'autres fois, je faisais juste que le regarder. Il vivait là, sa petite vie. Bon, c'est ce type de rencontre, moi, qui me semble importante parce que, bah, on en a parlé tout à l'heure, mais pour moi, ces êtres vivants-là, ils ont des capacités extraordinaires qu'on n'a sans doute pas encore appréhendées. Ils vivent là, à nos côtés, on n'y fait souvent pas attention, souvent on les détruit en plus. C'est bien dommage parce que je pense qu'on pourrait fonctionner autrement et bon, moi j'aime bien ces espèces.
Donc il y a à apprendre, les humains ont à apprendre.
Pour
des
moi,
oiseaux,
oui. Ouais. Mais comme des plantes. Hein.
Ouais, des plantes
on
ouais.
A parlé beaucoup de Jean-Marie Pelt tout à l'heure.
Non, on ne l'a pas dit dans l'émission, mais non, on a parlé de Jean-Marie Pelt.
Ouais, ouais. Ouais.
Et parce que je viens de Metz, Jean-Marie Pelt était ancré vraiment à Metz. Hein.
Ouais, et puis que c'est pour moi un personnage qui racontait, qui était à la fois un conteur, mais ses contes étaient basés sur des histoires trempées au coin de la science. Ça ouvre des espaces. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup. C'est qu'on ne se limite pas simplement à une approche technique d'une espèce en disant c'est telle espèce, ça fait telle taille, telle pour tel machin. J'ai du mal avec ça. Moi, j'ai besoin d'un peu de mystère, d'un peu d'imagination autour de cette espèce. Et puis, ben, j'aime bien quand ces animaux-là ou ces espèces-là me viennent un peu confirmer ce que je ressens.
Je pourrais penser que finalement, le dessin ou la photo n'est pas la finalité. Ce qui est vraiment important, c'est ce que vous allez vivre avec les oiseaux, avec tel ou tel oiseau.
Et pourrais-je pousser le curseur un peu plus loin ? Il y a un petit côté chaman ou druide, si vous faites ce que vous voulez avec ça, ou autre chose, mais en tous les cas, une certaine forme de spiritualité. Et moi, ma démarche, si elle a un sens, ce serait dans une espèce de création de totem qui, dans une vibration de couleur, nous amène à un contact plus élargi, plus sincère, plus vrai, d'une dimension qu'autrement on a peut-être du mal à atteindre. Quoi. On a créé une association qui s'appelle les Amis des Piaf il n'y a pas longtemps, dont je suis le président, et qui aura comme objectif de collecter des témoignages auprès des gens de toutes ces histoires de relations particulières avec une espèce vivante, dans le but d'essayer de dire ben, faisons attention parce que c'est bien plus large qu'on ne veut bien le croire.
Régulièrement, quand je voyage, je rencontre des personnes qui me disent « Mais la météo aujourd'hui, c'était pas comme ça avant, etc. » Ici, les changements climatiques qu'on peut noter partout, vous les notez ici ?
Oui.
Vous les subissez ici ?
Là, par exemple, cette année, on a des coups de vent, on a un vent permanent tous les deux jours, trois jours. J'avoue que cette partie-là m'inquiète un peu parce qu'on sent qu'il y a des choses qui sont en lutte. Des équilibres qui sont en lutte et ça pourrait basculer d'une certaine façon. J'appréhende un peu, quoi. Compter qu'on voit bien qu'il y a des espèces qui disparaissent petit à petit, qui sont plus aussi présentes qu'elles l'étaient à un moment donné. Par exemple, à Camaret, en ce moment, il y a trois martinets qui tournent autour du dessus de la ville. L'été dernier, il y en avait 40 qui tournaient, même s'il y avait eu quelques petits, mais il y avait quand même 40 à 50 oiseaux qui tournaient dans le ciel de Camaret. On approche du 14-15 mai, 15 mai demain. Et puis, ben, on a trois martinets qui tournent, quoi. Et dans un autre endroit, à Argolles, où l'année dernière, il y avait peut-être 200 hirondelles à tourner, eh ben, il en reste 40 à 50 à tourner. C'est quand même pas...
C'est quand même plutôt très inquiétant.
Oui, bah oui, oui. C'est... Alors, on pourrait se dire, on s'en fout, il y a des gens, des êtres humains qui crèvent un peu partout sur la planète. Qu'est-ce qu'on en a à faire de quatre hirondelles ? C'est un tout, quoi. Je pense que le monde, il est un tout et il faut que... qu'on prenne conscience de ça. Et qu'on,
surtout l'hirondelle qui fait le bonheur.
Bah oui, non. En plus, dans l'histoire de l'humanité, l'hirondelle, elle est présente dans les contes ou dans les premiers livres. Hein. Elle est présente à nos côtés, ce soit chez les Égyptiens, chez les Chinois, même chez les...
Et là, c'est quoi ?
C'est une aigrette garcette qui est en pêche. Là.
Bon, elle est à 200 mètres à peu près. Hein. Les 150
ouais, ouais,
une centaine de mètres, mais... Voilà. Vous, avec votre radar, vous l'identifiez tout de suite.
Ouais, bon, ça, c'est pas l'oiseau le plus compliqué à reconnaître. Il a son bec noir, les pattes noires, et puis l'attitude, à peu près, la taille, on voit bien que... Enfin, on reconnaît une aigrette garzette. Quoi.
Et puis là, elle vous a regardé, elle a dit « Ah, mais c'est Serge, tiens, il est là
!» Ouais, pourquoi pas, mais après tout... Mais c'est pareil, quand vous voyez un goéland, ça vit 30 ans. Bah, un goéland, il a le temps de vous intégrer dans son schéma. Hein. Donc, il vous connaît, enfin, ils connaissent le bateau de pêche.
Ouais, bah, ils savent qu'il y a à manger aussi.
Mais en même temps, bah, ils identifient quelque chose.
Ils se disent, tiens, lui, c'est son bateau, je reconnais le bateau de pêche, mais c'est pas un très bon pêcheur, vaut mieux chercher un autre bateau, enfin, etc.
Ouais, mais, ouais mais on rigole, mais ça me fait penser à un article du début ou de fin du 20e siècle, c'est quelqu'un qui... à Camaret fait de l'histoire et qui extrait des articles de la presse de l'époque et dans lesquels on a une espèce de missive qui est collectif des pêcheurs de Camaret et des environs qui écrivent au ministre en disant bah, « Écoutez, il y en a marre, les chasseurs viennent ici, détruisent les oiseaux. Nous, on en a besoin parce que c'est des guides pour repérer le poisson, pour savoir où il est. Et puis voilà, on n'accepte pas ça, donc faites quelque chose. » La relation, elle est plus subtile qu'on veut simplement le dire. Et puis le problème, c'est que nous, on va trop loin sur les poissons qu'on extrait au large ou tout ça, la grande pêche industrielle. Et ces oiseaux-là, eux, on leur laisse pas le temps de s'adapter. Nous, on peut descendre à 200, 300, 400 mètres, trouver du poisson. Si tant est qu'on doive trouver ce poisson-là, mais en tous les cas, on le fait, on a les moyens mécaniques ouais. et l'intelligence pour le faire.
Eux en plongée, non.
Bah, ils peuvent pas, non. Ouais. Certains oiseaux descendent à 40, 50, 60 mètres.
Ah oui, quand même.
Oui, quand même, ouais. Certains puffins descendent à cette distance-là.
Un guillemot 40, 50, 60 mètres. en apnée.
Voilà, un guillemot de Troyes, il peut descendre à 40-50 mètres. Mais bon, arriver à cette profondeur qu'il puisse pêcher, quand il remonte, s'il remonte et qu'il est un peu essoufflé pour avoir attrapé son poisson, d'abord, il faut qu'il en ait trouvé un. C'est pas si simple que ça, donc ces oiseaux-là...
Et quand il plonge au pif ou il a localisé ?
Il regarde, on voit tous ces oiseaux, trempent la tête dans l'eau, regardent, observent, et puis du coup, ils vont se mettre à plonger pour essayer d'attraper quelque chose, espérer. Parce qu'au pif, comme ça, ça marcherait pas.
Voilà, on revient vers l'hostellerie de la mer, du Fret.
Oui, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est un très bon restaurant. C'est une bonne adresse pour un bon repas, rapport qualité-prix intéressant. Ouais. Puis il y a un petit hôtel aussi. Là.
Oui, ça donne envie de passer quelques jours là, hein, franchement.
Ouais.
Serge, on va se quitter là.
Ouais.
Bah, merci pour cette découverte au Fret. Je ne savais même pas que ça existait, le Fret, sur cette presqu'île qui est exceptionnelle.
Oui, ben ça, je pense que je l'ai dit. Oui, c'est quand même un lieu qui est exception et qui vaut le détour, ça c'est sûr.
J'essaye de faire une vanne à deux balles. J'espère que nous nous croiserons. Nous croiserons une autre fois.
Oui, tout à fait.
Croisons-nous.
Tu voyais à l'horizon la presqu'île de Crozon, senteur vanillée des ajoncs. Bruyères et chardons, le temps des vacances et les étés avaient un parfum d'éternité. C'était illusoire, mais l'on prenait pour des
réels. Belit à Nechar et Braise. Suivez le guide en Bretagne.
Juste à côté de Crozon, si on veut aller à la plage, je pense qu'on ira vers la plage de Morgat. Et à Morgat, eh bien, je retrouve Muriel. Et c'est incroyable. Alors, moi, j'ignorais totalement toute cette histoire. Mais ici, on pourrait dire qu'on est dans un quartier Peugeot. Moi, j'ai une voiture de location, c'est une Peugeot. Peugeot, comme Peugeot, les voitures et tout le reste. Comment ? Et Muriel, vous êtes une arrière-petite-fille. De
la famille de mon mari et les Armands Peugeot étaient amis.
Bon, alors c'est pour dire qu'on est dans un quartier Peugeot. Vous êtes une arrière-petite fille d'Armand Peugeot qui est à l'origine de l'urbanisation de ce quartier.
Oui, c'est ça.
À quelle période sommes-nous là ?
78 plus 80.
Alors 78-80, mais 1800. Hein. Oui. 78-1880. Il y avait quoi ? Avant l'arrivée d'Armand Peugeot.
Des champs.
Vous
avez la route qui va à l'école, qui est un petit peu plus loin. Cette route faisait la limite du port de Morgat. Parce que c'était l'école pour les enfants et tout ça. Bon. Et quand Armand Peugeot est venu sur les conseils d'un de ses employés, il est venu, il a trouvé qu'effectivement... La plage était une plage qui n'était pas dangereuse.
Voilà, c'est ça.
Il est venu. Moi, je n'étais pas née, mais...
Bah non. Non, parce que c'est quand même il y a plus d'un siècle. Hein.
Et ils ont fait construire l'hôtel de la mer.
Ah, le grand hôtel. Hein.
Oui. Ils ont fait construire des routes et tout ça.
Il a eu un coup de cœur, en fait. Il a vraiment eu un coup de cœur.
Comme il avait un ami qui était le grand-père de mon mari, il lui a dit « Ah, mais il y a une maison !» terrain juste face à la mer qui est extraordinaire. Ce grand-père est venu. Ah, il a dit oui, il y a un truc, tu sais, vraiment ce que tu me dis, c'est bien. Bah écoute, je vais acheter le plus petit terrain en bordure de mer et puis je vais prendre une maison de travaux de chantier américaine. Et c'est la maison de fer.
Ah, mais je n'ai pas fait attention, moi, à la maison de fer. Ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que Armand Peugeot a fait construire sa maison. Et puis, avec des membres de la famille et des amis, ces marais sont devenus tout un quartier d'habitation. Peuplé que des amis de la famille. On part de rien.
Non, mais c'était les trucs d'été.
C'était des maisons secondaires. Avec une architecture, me disiez-vous, Muriel, tout à fait particulière.
Un grand architecte, Chabal.
Chabal. Ouais, donc
c'était Brestois.
Moi, j'arrive d'une maison qui est maison d'hôte, là, qui s'appelle Kermaria. C'est pas une maison Peugeot ? Ah, c'est une maison Chabal. Elle n'était pas habitée par la famille Peugeot. Mais c'est la rue Armand Peugeot, celle dans laquelle je suis.
C'est l'îlot Peugeot. Au départ, Chabal était breton et c'était un excellent architecte.
On apprend, grâce à vous, Muriel, l'existence de tout ce quartier Peugeot dont vous êtes une arrière-petite-fille.
On est nombreux.
Et vous roulez en Peugeot?
Oui.
Oui.
C'est Citroën, je crois.
Ah, c'est ouais, Peugeot Citroën. Merci beaucoup.
Ben non, mais de rien.
On n'est pas à Sochaux, mais on est chez Peugeot.
Quittons Muriel, le quartier Peugeot de Morgat. Arrêtons-nous à 1 km à l'est, à Plomediarne, l'auberge des Glaziques. Nous avons rendez-vous avec Olivier Belin, chef doublement étoilé au guide Michelin.
Degemermat et Braise, bienvenue en Bretagne.
Je vais vous laisser tout d'abord, Olivier Belin, nous expliquer, vous qui avez une carte géographique de la Bretagne bien en tête et du Finistère bien en tête, où sommes-nous ?
Alors, on est dans le Finistère, on est dans la pointe Finistère, exactement à l'entrée de la presqu'île de Crozon, dans mon village natal qui s'appelle Plomediarne. Alors, je dis souvent, pour les, c'est une petite anecdote que j'aime raconter, quand je commençais ma carrière et que j'étais invité à Paris, souvent dans des remises de trophées, pas forcément pour moi, mais bref, en tout cas des événements culinaires, les gens me disaient, c'est où Plomediarne ? Je disais toujours, c'est le dernier village avant New York. Donc là, on est tout au bout, dans la presqu'île de Crozon, on est dans un village qui est juste à la limite, qui est paysan, mais qui est en bord de mer, ce qui est un petit peu sa particularité, et c'est mon village.
Et la mer, on la voit, hein.
On la voit, on est à 3 km là. Et là, on est juste, c'est Douarnenez qui est en face. Bah, c'est le village de mon enfance, donc c'est vrai que moi, je l'adore. Et Dieu sait si j'ai la chance de voyager maintenant. Mais j'adore toujours revenir à Plomediarne parce qu'il se passe quelque chose dans ce village qui m'a vu naître.
Alors, on va raconter l'histoire de cet établissement, lié bien sûr à l'histoire familiale. Mais déjà, dans votre parcours, vous vous êtes libéré, vous avez pris votre envol et vous avez pas mal bourlingué. Hein.
Alors, j'ai pas mal bourlingué. C'est vrai que j'ai tout de suite compris qu'il fallait, pour apprendre, il fallait voyager parce que c'est de la rencontre des hommes, la rencontre des territoires et des cultures qui fait qu'on progresse et en tout cas on se nourrit, c'est en se nourrissant de différentes choses qu'on écrit son histoire. Donc vous voyez, je suis parti apprendre ailleurs et en l'occurrence à l'époque, moi j'ai fait ce qui était important, faire un tour de France. Maintenant les jeunes font le tour du monde, mais à l'époque j'ai fait un tour de France et j'ai surtout voulu apprendre à connaître les chefs d'abord avant de cuisiner leur cuisine et après les produits des régions et pas la cuisine du chef. Et pour finir, la cuisine du chef. C'est ça qui est important. Quand on apprend à connaître qui c'est qu'on a en face de soi, après, on s'intéresse à sa cuisine. Mais il faut souvent d'abord qu'on prenne l'homme ou la femme. Je dis bien les deux, parce que maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui reviennent, et c'est très bien, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, à comprendre leur parcours pour comprendre leur univers et leur cuisine.
Ça me fait penser à un film de Lelouch, hein, cela dit, votre parcours, puisqu'il y a un film de Claude Lelouch, c'est Partir, Revenir, donc vous êtes parti, vous êtes revenu.
C'est une belle comparaison, je vous remercie. Ouais, je suis parti, je suis revenu, et encore une fois, quand je suis revenu enrichi de plein de choses pour apporter aux Bretons, aux Finistériens, le savoir que j'ai pu apprendre, et ça c'est important.
Et notamment un passage chez Joël Robuchon, milieu des années 90.
Ouais, ça c'est The Place to Be, c'était la place. J'ai eu la chance de travailler au Jamin et de rencontrer mon maître. Cette histoire est assez folle. En fait, j'avais 16 ans, j'étais dans un stage. Le chef, à la fin du service, il vient voir, il me dit « Bon, il va falloir aller un peu plus vite, hein, parce qu'il me dit « Ça va pas, t'es pas si rapide. » Bah, j'ai « Très bien, chef. » Il me dit « Mais tu connais un petit peu les chefs de cuisine ?» Bah, j'ai dit « Ouais, je connais Paul Bocuse, les Trois Gros. » Et la Tour d'Argent, il me dit non, la Tour d'Argent, c'est pas un chef, c'est le nom d'un établissement. Ah, d'accord. Et comme les Trois Gros, ils sont pas trois, ils sont deux. Ah, d'accord. Il dit, mais moi, je vais te dire, voilà le plus grand. Et il était juste à côté de moi, il passe sa main droite sur une étagère et il pousse quelques livres. Et derrière, il me sort un livre, Joël Robuchon, ma cuisine pour vous. J'ai jamais entendu parler, il me dit, c'est le plus grand chef français. Ah bon ? Bah, je ne le connais pas. Il me dit non, mais il n'est peut-être pas connu des grands médias à l'heure actuelle, mais techniquement, c'est ce qui se fait de mieux.
C'était avant Bon Appétit, bien sûr.
Oui, largement. Ouais. Ouais. J'ouvre la première page et je tombe sur une assiette qui s'appelait l'assiette Belle de Mer. Et je vois cette assiette magnifique. Tout est dressé au cordeau. Les pluches de cerfeuil sont posées sur chaque médaillon de homard. Les pointillés sont. Et cette phrase me sort. J'irai un jour travailler chez lui. Et là, il me regarde, il fait. Ah, mais Olivier, attends, tu sais pas ouvrir une nuit, t'avances à deux à l'heure, il va falloir que tu travailles. Bah, j'y peut-être. Et donc, le service se finit. Et là, moi qui lisais très rarement, je lui dis, chef, je peux vous demander un service, ouais. Est-ce que je peux prendre le livre? Il me dit, ouais. Je suis allé dans ma. Parce que je dormais dans une caravane, parce que, bon, bref. Et j'ai dévoré le livre de cuisine, les recettes, sa vie, son machin, en moins de deux heures. À partir de cet instant T, j'ai 16 ans. Mon rêve, c'est d'aller travailler chez Robuchon.
Et vous y arrivez à quel âge?
Et j'y arrive, je ne sais plus, à 29 ans. J'aurais pu arriver plus tard, sauf que il était marqué dans la présentation du livre qu'à 50 ans, il arrêterait. Et à ce moment-là, il en a déjà 45, voire 46. Donc je me dis, il reste 3 ans, il faut que je me démerde.
Vous réussissez facilement à entrer?
Non, ça fut très long. C'était une très très longue liste d'attente. Mais j'ai la chance de faire mon service militaire à Paris. Et à Paris, je crée des contacts avec des gens qui sont en contact avec les chefs de Robuchon.
Aujourd'hui, on dit un réseau.
Un réseau, et par mon réseau, j'arrive à y entrer. Et j'ai passé un peu plus de 2 ans, ouais. Exceptionnel. Au début, j'arrive, je suis commis à la fameuse purée. Souvent, les gens parlent de la purée. Moi, je peux vous en parler, la purée, au sens propre, au sens figuré. Mais parce que maintenant, j'ai un peu pris de. Je fais du beurre, c'est le cas de le dire. J'ai fait de la purée pendant 6 mois. Mon gros travail, c'était de faire de la purée. La fameuse purée.
Bah, et dans la purée, il y a du beurre.
Il y a beaucoup de beurre.
Et quand on est breton, donc on se retrouve dans son milieu naturel, alors.
Ouais, mon milieu naturel, mais c'est surtout. Alors, c'est là où Robuchon était exceptionnel, c'est que d'un produit, d'une purée simple, il en fait quelque chose qui deviendra mondialement reconnu, et sera reconnu pour ça, par une purée. Sauf que derrière cette purée, il y a un travail technique colossal. Et il y a un bon beurre.
Puis après, vous avez vécu alors d'autres aventures. Quand vous parlez de votre maître, c'était Robuchon ou alors c'est Jacques Torel?
C'est deux hommes différents. On a un qui est un chef qui est connu mondialement, qui est d'une précision, d'une technicité, d'une rigueur extrême. C'est un mof compagnon. Bref, Monsieur Robuchon a tout décroché. En plus, à l'époque où j'y travaille, les classements mondiaux n'existaient pas. Et le premier classement qui est fait, oui, j'allais plus loin, l'Herald Tribune à l'époque, Patricia Wells qui fait ça. Et Monsieur Robuchon devient le meilleur restaurant du monde. Donc j'ai la chance de vivre un truc extraordinaire. Mais c'était ça. J'arrive chez Torel, on est à La Roche-Bernard, cuisinier brilleron, je veux dire bien portant, un regard malicieux, une moustache bien taillée, un homme érudit sur la Bretagne, qui connaît parfaitement chaque coin de sa région et chaque producteur. Et en plus, un homme d'une très grande culture culinaire. Et là, j'arrive dans une maison qui n'a rien à voir avec Robuchon, c'est la Grosse Brigade. Là, c'est une maison familiale, mais j'aime cet homme parce que je le trouve truculent. Pour comparer, il y a M. Rollinger qui explose aussi.
Olivier Rollinger,
voilà,
à Cal.
Voilà, ils sont un petit peu en balance pour avoir la troisième étoile. Mais bon, je choisis Torel parce que sa cuisine me correspond plus. Et donc voilà, j'y passe une année qui sera une année d'une richesse extrême parce qu'au-delà du cuisinier, Torel m'apprend à devenir aubergiste. Et ça, il me le fait comprendre souvent quand on va marcher le vendredi matin à Vannes. Il me dit, Olivier, un jour, tu vas rentrer chez toi et c'est bien d'avoir 15 mecs autour, mais tu n'auras peut-être pas 15 mecs autour. Et moi, à l'époque, c'est vrai que je suis que cuisinier. Donc, dans ma tête, il n'y a que la technique, il n'y a que ça. Et lui, il me fait comprendre, en partie, mais je le comprendrai beaucoup plus tard quand je reviendrai chez moi, qu'il me fait devenir aubergiste.
Et Jacques Torel.
Ce qui est un très grand mot, d'ailleurs, aubergiste.
Oui, ah, oui, oui.
Parce que je vais prendre un très grand chef, Alain Ducasse, qui est aussi un chef que je connais et que j'apprécie beaucoup. Ducasse, suivant, dit « Je suis un aubergiste ». Depuis toujours, il se prétend aubergiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où les gens poussent la porte, du premier sourire jusqu'au dernier remerciement, en disant « Au revoir et à bientôt », on est là pour accueillir les gens et les servir du mieux qu'on peut dans un lieu où ils vont passer un moment extrêmement agréable. Et ça, j'aime beaucoup de la part d'Alain Ducasse. Donc voilà, et Torel était un grand, grand aubergiste.
Oui, c'est ça. Dans l'idée d'un aubergiste, il y a aussi l'idée d'un personnage.
Personnage, du partage, des gens un peu uniques, parce qu'une auberge, c'est quelque chose de différent. C'est encore autre chose qu'un restaurant. Un restaurant, c'est à manger une auberge, on y dort, on mange, on prend le petit déjeuner, on va passer un peu de temps avec les convives. Voilà, vous créez un lien qui est différent.
Et le retour à Plomodierne, c'est quand?
Le retour à Plomo, c'est après MCE. Ce
on dit Plomo.
Ouais, moi je dis Plomo parce que je suis de Plomo. Et quand je joue au foot, on disait les gars de Plomo. Non, mais le retour, il se passe parce que je suis réputé pour avoir du caractère. Donc à un moment, j'estime que j'ai fait le tour de la question et j'ai plus envie de travailler pour les autres. Bon, je dis, je rentre chez moi. Mm-hmm. Sauf qu'on m'attend pas.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que rien n'est préparé. Vous savez, quand vous avez un gamin qui a fait un parcours, qui est un peu têtu, qui, là vous ne l'avez pas dit, mais à 17 ans, en fait, j'ai décroché le titre de meilleur jeune cuisinier breton de Loire-Atlantique. Donc à partir de là, les chefs ont commencé à me suivre. Alors maintenant, il y a la télé, mais à l'époque, c'était les concours qui étaient les accélérateurs de carrière. Aujourd'hui, c'est les émissions de télé et de cuisine. Vous avez envie de rentrer, mais là, personne ne s'attend à ce que vous reveniez. Parce que ma mère tenait un restaurant ouvrier, VRP, banquet.
Oui, où nous sommes.
Où nous sommes, là. D'ailleurs, ici, c'était juste un champ. Personne ne m'attend, donc c'est vrai que je reviens avec l'envie de tout défoncer. Ma mère a 55 ans, elle est dans sa vie, elle est à un an de la retraite et jamais de la vie, elle pense qu'il va falloir repartir dans une vie.
N'espérez pas votre retour, enfin, si elle, vous accueillir, oui, mais n'espérez pas votre retour avec l'envie de...
Je ne sais pas si elle espérait mon retour ou pas, je ne suis pas dans la tête de ma mère, je dis souvent ça parce que ça c'est pareil. On pense tous que nos enfants, en tout cas, déjà vont être heureux, c'est le principal. Puis après, si il est heureux dans la cuisine, pourquoi pas, mais est-ce que c'était prévu que je revienne à Plomo? C'est pas sûr. En tout cas, pas aussitôt.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de chefs qui espèrent un jour que leurs enfants qui se tournent éventuellement vers la cuisine, un jour reprennent le resto maison.
Je pense qu'il y a une filiation de génération en génération. On a toujours envie, si on a des enfants, qu'ils reviennent à la maison. Maintenant, j'allais dire, il faut être pragmatique aussi, le monde a changé. Le métier a changé, la restauration a changé, l'hôtellerie a changé. L'autre jour, j'ai dit à quelqu'un, le courage, c'est peut-être de savoir dire non des fois à sa famille.
Je vous avoue très franchement, Olivier Belin, je n'étais pas familiarisé du tout avec le terme de restaurant ouvrier. Autant les routiers sont sympas, etc., ouais. Les routiers. Mais restaurant ouvrier, moi qui viens plutôt de l'Est, je n'ai pas le souvenir de resto appelé resto ouvrier. Et même s'il y avait beaucoup d'ouvriers.
Les routiers, c'est souvent, on les trouve sur des nationales ou dans des endroits-là. Ici, ce n'est pas ça. C'était effectivement... Il faut reprendre l'histoire de la maison, parce que la maison date de 1870. Donc voilà, de 1870, c'était une maréchalerie. À la Première Guerre mondiale, ça s'arrête. Ça reprend entre les deux guerres. Ça s'arrête après la deuxième. Et là, ma grand-mère dit, bon, voilà, la maréchalerie, on va arrêter. Et on va servir la soupe aux ouvriers. Parce que c'est les 30 Glorieuses, donc on est la construction des villages après la guerre. Les villages qui commencent à se développer, les co-communes qui commencent à investir, donc maintenant ils commencent à avoir des maçons, le charpentier, donc on sert les ouvriers.
Mais c'est un nom qu'on trouvait partout en France, restaurant ouvrier.
Moi j'ai toujours connu ça, les ouvriers.
Ce restaurant ouvrier, aujourd'hui, qui est un restaurant 2 étoiles, guide Michelin, guide rouge, avec la partie hôtel, relais, château, ouais. Donc il y a eu quelques travaux ici.
En fait, en 2000, quand je me lance dans le gastro en 2000, j'avais une maman qui était une très grande gestionnaire. À l'époque, je n'étais que salarié. On a fait les choses petit à petit. Donc c'est vrai qu'on a réaménagé tranquillement au fil du temps. Et en 2011 est arrivée cette nouvelle partie, voilà l'hôtel. Donc, il est un 8 chambres qui est devenu relais château. En 2018 ou en 2019 ou en 2021, je ne sais plus, on fait un spa en sous-sol. Donc, on a un espace bien-être adapté à 8 chambres. Puis, un an ou 2 ans avant, on aménage. Ici, c'était une espèce de terrain. Donc, cette espèce de jardin qui, surtout la nuit, est très sympa. Voilà, on a pris un petit côté de Marrakech, un peu. Là,
avec une petite mare.
Une petite mare, voilà.
Une petite marette,
là, qu'il va falloir nettoyer. Et donc, on réaménage au fur et à mesure. Mais on a toujours fait en fonction, parce qu'on est propriétaire à 100%, et je tiens à le dire. Nous, on est des gens libres. Et moi, je ne veux pas dépendre d'un investisseur ou d'un groupe financier. Donc, on a toujours fait quand on avait les moyens. Donc, des fois, ça a pris plus de temps que les autres. Mmh. C'est comme ça, c'est un choix personnel. Mais au moins, je suis libre et je fais ce que je veux. Il n'y a pas longtemps, on a refait une petite salle aux couleurs glaziques, qui sont les costumes traditionnels bretons.
J'allais vous poser la question, bien sûr.
Voilà.
L'auberge des glaziques, petite explication.
Voilà, glazique, ça veut dire petit bleu.
Petit bleu.
Voilà, exactement.
Vous êtes en bleu.
Voilà. Là, aujourd'hui, je suis en bleu noir, mais, ouais. Mais c'est vrai que je suis très attaché à ces couleurs-là. Donc, on a réaménagé la maison au fur et à mesure, en essayant de lui amener une belle identité. On se rend pas compte qu'on est au bout du bout. Voilà. Oui. Quand on est intérieur, on est dans un truc qualitatif. Et avec, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dès qu'au fil du temps, certains sont plus là, mais d'autres sont là. Mais toutes les équipes qui m'ont suivi, alors des fois c'est par séquence, c'est tous les 3-4 ans, généralement on change de staff. Mais voilà, tous les gens qui se sont investis, qui aussi ont emmené leurs pattes et qui nous suivent dans ce projet. Finalement, le projet d'un homme, parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je n'ai pas de descendance, donc moi derrière, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais voilà, mais en tout cas, un outil qui est actuel. Et qui correspond aux attentes d'une belle maison gastronomique. parce qu'on est aussi grande table du monde. Ouais. Et Relais Château, je suis assez content parce que ça devient un Relais Château un peu beau. Il faudrait que ça soit un peu couillu.
C'est pas évident, hein, quand même, au départ, d'imaginer un relais château ici, dans ce village de combien d'habitants?
De 2300 habitants.
Ah non, c'est une ville, alors. 2300 habitants, c'est une ville. Ah, ouais, après 2000, c'est une ville.
Ah, je savais pas.
La vieille, elle avait vu que le vieux, il voyait plus, mais le vieux, il voyait bien que la vieille, elle voyait rien. La vieille, elle avait vu que le vieux, il voyait plus, mais le vieux, il voyait bien que la vieille, elle voyait rien.
Mon père n'avait fille que moi, le vieux, il voyait bien que la vieille, elle voyait rien.
Mon père n'avait fille que moi, le vieux, il voyait bien que la vieille, elle voyait rien.
Sur la mer, il m'envoyait. La vieille, elle avait vu que le vieux voyait plus. Mais le vieux voyait bien que la vieille, elle voyait rien.
La vieille, elle avait vu que le vieux voyait plus. Mais le vieux voyait bien que la vieille, elle voyait rien.
Encore sur la mer, il m'envoyait. Le vieux voyait bien que la vieille, elle voyait rien.
Encore sur la mer, il m'envoyait. Le vieux voyait bien que la vieille, elle voyait rien.
Le marinier qui m'y menait. La vieille, elle...
Terminons ce Suivez le guide breton à Plomodierne dans le Finistère, devant l'auberge des Glaziques, 2 étoiles au guide Michelin, avec son chef aubergiste, Olivier Belin.
Ulite à Nechar et Breiz. Suivez le guide en Bretagne.
Dans votre ciel étoilé, la première étoile a brillé en quelle année?
En 98-2000, je garde l'activité ouvrier, donc j'ai rien d'autre. Et en 2000, j'avais dit deux choses, soit on fait des transformations, ou alors moi je repars en faire mon tour. Ma mère a décidé d'aller dans mon jeu. Donc on a commencé les transformations en 2000, et en 2005, la première étoile. Alors maintenant, 2005, 5 ans, ça paraît très loin pour les jeunes, parce que ça va tellement vite aujourd'hui. Mais 2005, première, 2010, deuxième, donc là, c'est très rapide à l'époque, parce que 5 ans.
Vous êtes dit 2015, troisième.
Et je me suis dit 2015, troisième, 2007, on l'a frôlé, je crois, si je me rappelle bien. À un moment, mon nom a été cité, et puis on s'est raté un peu. Et puis après, j'ai eu un petit coup de mou, voilà, en 2019. J'ai eu un gros coup de fatigue, où j'étais un peu usé. Mon surnom, un peu, dans le milieu, c'est le menhir, la montagne.
C'est un peu la carrure du bonhomme. Hein.
Alors, mais non, c'est vrai que j'ai pris du poids, mais à l'époque, j'étais très sportif, mais c'est vrai que bon... Ah, donc je pensais que j'étais aussi...
J'ai pas dit gros, hein, j'ai dit carrure. Hein.
Ouais, je pensais que j'étais capable de tout surmonter, mais j'ai fait beaucoup de choses, trop de choses, peut-être à un moment, qui fait qu'un jour, j'ai explosé. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi aussi, de me reconstruire d'abord. Donc maintenant, on va repartir pour la conquête du Graal. Mais bon, j'aurais perdu 4-5 ans.
Vous la visez quand même.
Bah, je vise parce qu'en fait, c'est quelque chose de très personnel. En fait, c'est très compliqué d'expliquer ça aux gens. Souvent, les gens disent, vous avez réussi à faire un 2 étoiles, Relais Château.
C'est formidable.
18 sur 20, Guimio, 4 TOC. Bon, ouais, vous avez gagné plein de concours. Vous avez même fait un peu de télé, des médias. Bon. Ouais, mais ça ne s'explique pas. J'ai travaillé avec des chefs qui ont touché l'excellence. Et je trouvais ça tellement exceptionnel que je m'étais juré, alors peut-être que ça ne sera jamais possible, hein, parce que c'est un travail d'équipe, et quand je dis ça, voilà, je viens bien le dire, c'est pas qu'Olivier Blanc, c'est aussi un travail d'équipe, peut-être que c'est peut-être trop dur de réussir ce rêve à Plomodierne, j'aurais mis ce mot rêve, parce que je pense que c'est accessible, mais en tout cas ce projet, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement, j'ai pas sifflé la fin de la partie, on va continuer.
Donc, on est toujours dans le match. Cuisine, dites-vous, je vous cite, c'est une cuisine qui raconte le terroir de la pointe Finistère, dont vous êtes un ambassadeur, et c'est une cuisine terre-mer. Hein.
Alors, au départ, c'était pas la pointe Finistère. Il y a 20 ans, en fait, les médias locaux, entre autres l'Ouest France et le Télégramme, comme ça tout le monde va être content, à l'époque, m'avait fait un bel article, mais il m'avait surnommé à l'époque l'empereur du blé noir. C'est vrai que quand je suis revenu à Plomodierne, je m'étais dit, mais comment je peux attirer les journalistes? Parce que faire venir les journalistes ici, à Plomodierne, ça viendra jamais. Fallait que je trouve l'idée. Et cette idée est venue à l'époque, c'est que je mangeais des crêpes un jour. Et en fait, j'avais une particularité, tout jeune. Je faisais un geste bizarre. J'ai une amie, une deuxième maman, ce que j'appelle ma deuxième maman, qui s'appelle Marie Gourland, qui a une crêperie à Plenay. Et je mettais ces crêpes sur mon visage.
Ouais, inattendu.
Non, mais elle pliait des crêpes, filait des crêpes. Comme
ça. Une espèce de masque de beauté.
Ouais, je me mettais ça sur le visage. Et j'adorais l'odeur, les odeurs de beurre, de sucre. Ça, je l'ai fait pendant des années. Puis bon, quand j'ai fait mon tour de France, effectivement, je revenais moins la voir. Et puis quand je suis revenu à Plomo, moi, j'ai repris mes bonnes habitudes. Et puis un jour, je mangeais une crêpe de blé noir. Puis avant qu'elle me la serve, je la regarde. Puis je refais ce geste, je me la mets sur le visage. Je sens cette odeur de crêpe tiède sur le visage et je me dis mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire passer le blé noir dans la gastronomie. Alors on a des plats emblématiques bretons, qui cafard, ces choses comme ça, voire d'autres choses à base de blé noir, mais elle n'était pas dans la gastronomie.
Le kikafar, c'est un peu une espèce de pot-au-feu, mais avec le blé noir.
Voilà, en fait, le kikafar, pour faire simple, c'est le pot-au-feu breton, mais vous avez un peu de porc et du bœuf et vous avez deux phares. Un phare noir et un phare blanc avec des raisins. Et c'est cuit dans des sacs en toile de jute pour qu'il y ait immersion du liquide dans la farine et vice-versa la farine qui aille dans le jus. Et donc je me dis, mais c'est ça, mais il faut la faire passer en gastronomie. Pour décrocher ma première étoile, mon cheval de bataille, c'était, je travaillais à base de blé noir. J'étais même arrivé à faire plus que du blé noir. Donc les gens à la fin, ils me disaient, on en a marre, tu fais que du blé noir, on en a marre, voilà. Et donc quand l'étoile est arrivée, je dis, bon ok, maintenant que tu as fait le blé noir, il faut passer à autre chose. Et étant jeune, ma maman faisait un truc souvent quand on était en famille, des crustacés avec de la charcuterie. Et quand je me suis dit, il faut que je trouve cet angle. Ici, on est dans le Porzay, comme je disais tout à l'heure, c'est un pays paysan. C'est des agricoles. Et en face, donc, on est à 3 km de la mer. L'idée est venue logiquement.
Mariage.
Un mariage des produits porcins, parce que c'est beaucoup de porc que je fais, tripier, avec les crustacés, les coquillages et ça, voilà.
Mariage heureux.
Mariage heureux, donc 2 étoiles. Et puis quand la deuxième étoile est arrivée, bon, ok. Alors là, j'ai été sollicité un peu partout. Puis à moi, j'ai dit, bon, ok, il faudra aussi qu'on renouvelle le panel. Donc j'ai commencé à travailler sur les légumes bretons. Nos 7 grands légumes, comme le monde commençait à changer, que le vegan et la nourriture vegan
et la clientèle végétarienne.
Voilà,
comment
c'est arrivé aussi, on va travailler là-dessus. Puis à moi, je me suis dit, mais bon, il n'y a pas que ça. Donc j'ai commencé à faire un travail plus en profondeur, aller regarder sur toute la pointe Finistère, quels étaient tous les producteurs et machin. Et j'ai commencé à faire un travail sur tous les produits de la pointe Finistère. Mais le travail qu'on fait depuis 4-5 ans, c'est le travail de cette mise en avant de cette pointe Finistère et de tous ces producteurs qui sont à moins de 60 km à la ronde.
Un grand coup en Bretagne, la 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 la.
Si nous lisons la carte, nous lirons des plats, enfin des recettes qui sont très appétissantes. Mais vous, vous mettez des visages, quand vous lisez votre carte, une succession de visages de producteurs.
En fait, je vais dire quelque chose qui n'est pas non plus exceptionnel. Non. Mais depuis toujours, en fait, on fait ça. On n'a pas entendu le Covid, on n'a pas entendu le changement climatique pour travailler avec des gens. Avant, on travaillait localement déjà, sauf qu'on ne le disait peut-être pas assez. Sauf que moi, l'auberge, je ne le disais peut-être pas assez. Parce que pour moi, c'était une évidence que quand on avait la ferme déjà à l'époque de ma mère et de ma grand-mère, les produits venaient de la ferme. Donc là, c'était en prise directe, il n'y a pas plus direct que ça. Mais il a fallu, peut-être pour les guides aussi, puis pour les clients, qu'on le notifie un peu plus. Bon, il y a une géolocalisation du producteur, on sait où se trouve le produit. Tous ces produits sont point de Finistère. Voilà.
Et il y a notamment, alors pour les crustacés, il y a la langoustine du Guilvinec, il y a le homard de Kérity, ça c'est pas très loin d'ici, ça, dizaines de kilomètres.
Les asperges blanches de la Torche, mais là il y a une semaine, on a changé de fournisseur, on a démarré avec à Plogonnec, donc juste à côté, une dame qui nous fait juste que ses œufs bio ont dû la veille se livrer le lendemain matin. Le cochon de Kervilavel, je fais mes volailles de Kervilavel, j'ai mon agneau des Monts d'Arrée, alors je fais une petite déroute, j'ai à Rennes parce qu'il fait des pixceptions, c'est Joël Poirier qui est the place to be. On a notre beurre aussi de la ferme de Lesnevez, donc on a été chercher au maximum les produits d'ici. Après, vous dire que j'ai pas tant un petit produit qui vient d'ailleurs, ce serait con de me priver, parce qu'il y a des produits qui sont tellement beaux. Et puis surtout, il y a des produits que j'aime, c'est aussi simple que ça. Il y a des produits, c'est tout simplement parce que je les aime. Ouais. Nul n'est parfait. Et ben, il y a des choses, je vais pas dire que je suis 100% machin. Quand de temps en temps, il y a un peu de truffes qui passent, ça me fait plaisir. Mais.
Il n'y a pas de truffes bretonnes.
Pas encore. Ça viendra peut-être un jour. Mais alors, je sais qu'en Val-de-Loire, aujourd'hui, ça commence à arriver. Ouais. Donc pourquoi pas.
Vin breton, ça commence.
Ça commence aussi. Ouais. On commence à planter. De toute façon, le changement climatique
fait que
va changer la donne. Donc on va se retrouver avoir du vin en Bretagne. Oui, nos produits sont 99,9% bretons. L'andouille de Guémené-sur-Pourscorf, un gars qui est venu l'année dernière, qui est venu faire goûter, Laurent Sévelec, je goûte et je fais waouh. Ça me rappelle un miel que j'ai connu il y a 20 ans, et je vais reconnaître les autres, qui s'appelle le miel des abeilles noires, variété qui a fait disparaître de Ouessant. Et le gars qui m'a amené ça à l'époque avait une particularité, donc Ouessant, donc les embruns qui viennent sur l'île, donc font que bah, tout ce qui est ronces, les petites plantes et machin, faisait un miel d'une salinité extraordinaire.
Un miel salé.
Ouais. Fantastique. Il dit, bah, c'est les abeilles noires. Mais j'ai j'aurais reconnu 100 000. Il me dit, bah, j'ai 4 ruches, mis à camarais. Et voilà, mais j'ai découvert ça, le mec, il fait, il doit faire 200 pots. J'en prends les 3/4. Donc c'est par petites touches comme ça. Et j'ai préféré même, après le Covid, me séparer peut-être de gars qui étaient, ou de personnes, ou d'hommes ou de femmes qui étaient peut-être même des tops, parce qu'ils ne faisaient pas un effort sur le truc climatique. Et prendre des gens peut-être un peu moins connus, leurs produits sont peut-être tout à fait aboutis, mais parce que les mecs faisaient un effort pour certaines choses. C'est aussi ça, savoir prendre des décisions, c'est aussi ça le caractère du Breton. Mais ouais, tous nos producteurs sont là, et quand vous goûtez ça, on se rend compte qu'on a une richesse.
Et le beurre, bien sûr, le beurre salé, moi qui ne connaissais pas l'histoire, vous allez pouvoir me confirmer, c'est, si le beurre est salé en Bretagne, c'est parce qu'il y avait un problème de conservation quand il n'était pas salé, et comme les Bretons ne payaient pas la gabelle, ouais, ils y sont allés à fond avec le sel.
Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Pareil, il y avait un guide qui faisait une tournée française et qui disait « le thème cette année, c'est le beurre. Faites du bon beurre ». Et je lui avais répondu « je suis désolé ». J'ai toujours mangé que du bon beurre, moi. Il me dit, comment ça, il n'y a pas de beurre de merde? Je dis, non, il n'y a que du beurre de merde dans l'industrie. C'est comme aujourd'hui, je n'y vais pas souvent, mais quand je vois que dans les supermarchés, des fois, vous avez 50 marques de beurre, un beurre, tu as un beurre, demi-sel ou doux, ou salé, salé, demi-sel, doux. Ouais. Tu n'as pas 36 000 sortes de beurre. Donc à un moment, il faudrait te le dire. Non, il y a des gens, et encore une fois, je reviens, et ça, il faut le répéter, le rabâcher. Quand vous avez une ferme à côté de chez vous, si elle transforme les produits, allez acheter directement. Il n'y a pas meilleur que l'artisan qui a 10 mètres de chez vous, à 50 mètres, à 10 km, à 15 km. Moi, j'ai toujours connu que le bon beurre.
Alors, vous utilisez salé ou demi-sel?
Je coupe aussi avec du beurre doux. Parce que des fois, quand justement il est un peu trop salé, c'est dangereux pour les sauces.
Donc, on peut marier les beurres aussi.
Bien sûr. Et sachant que le beurre, c'est le plus grand fixateur qui existe.
J'ai appris la cuisson de la langouste dans le beurre, mais vraiment noyée dans le beurre.
Immergée, oui.
Immergée dans le beurre.
Bien sûr.
Je ne savais pas que ça.
Ouais, bien sûr. Bah, comme dans l'huile, c'est pareil.
Oui, c'est pareil. Mais autant dans l'huile, bon, tout le monde le sait, mais dans le beurre, tout le monde ne le sait pas.
Parce qu'on a l'impression que ça va se gorger. Mais c'est toujours pareil. Pourquoi ça se gorge? Quand un produit se gorge de beurre, c'est parce que le produit n'est plus de qualité. Si vous avez une langouste d'une fermeté exceptionnelle, que vous la trempez dedans, les chairs vont se raffermir et ça pénétrera jamais. Ouais. Par contre, ça va nourrir, c'est juste ça. Ce qu'il faut.
Et après, on récupère le beurre, on a un beurre à la langouste.
Si vous avez juste 5 langoustes dans 500 grammes de beurre, là, vous allez avoir un beurre au goût de langouste. Si vous avez une langouste dans 5 kilos de beurre,
bah non.
Voilà. Mais oui, bien sûr, si on récupère le beurre, il va être.
Le chef ne jette rien. Hein.
Quand l'horizon nous souriait, à la lueur des derniers phares, nos amours plantés sur la quai. Nous agitaient leurs blancs mouchoirs, les voiles claquaient dans le vent, et s'est versé par nos chansons, dans l'aube claire d'un ciel flambant, que nous allions pêcher le thon.
Allez, marins,
chantons dans le vent, marins pour longtemps, adieu
Merci beaucoup Olivier de Belin. En tout cas, vous m'avez dit avant qu'on commence à enregistrer que là, vous sortez du service du dimanche midi. C'est un gros service, je suppose.
Ouais,
du dimanche midi, vous étiez crevé. Bon, on ne l'a pas vraiment senti hein, dans cet échange. Et ce qu'on perçoit surtout, c'est la passion.
Quand on a la chance de vouloir parler de son métier, on le fait avec passion. On ne le fait pas au rabais. D'abord, je ne suis pas un homme au rabais. Je suis un homme qui est toujours entier, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Les gens entiers, on aime ou on n'aime pas. Quand je fais les choses, j'aime donner, m'interview, je réponds avec mon cœur, avec ma passion. Moi, j'ai fait un service, c'était dur. Et avant vous, j'étais même en train de revoir la femme du petit déjeuner, la jeune femme du petit déjeuner, pour lui réexpliquer des techniques parce que ça ne me correspondait pas. Donc voilà, donc quand on aime faire les choses, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis plus qu'un cuisinier, je suis aubergiste. Ça différence, ça comporte plusieurs parties dans la maison.
Merci.
C'est bon.
On est la Zocuzette, c'est tu es chuandé.
C'est la fin de ce Suivez le Guide dans le Finistère. Kenavo Arvéchal, au revoir, à bientôt en Bretagne. Merci Muriel dans le Cajou, l'aubergiste 2 étoiles Olivier Belin et Serge Cargoat, l'ornitho. Suivez le Guide en Bretagne, préparé avec la complicité de Clémence Karadec, Finistère 360, et Christine Martin pour ses précieux conseils et sa voix. Réalisation Romane Feocchio, les sites internet tout commence en finistère.com. aubergdesglazics.com. Je vous recommande Car Maria, la maison d'hôte de Morgat, à quelques mètres du quartier Peugeot. Et vous retrouverez très facilement Serge Cargoat sur Facebook. Peut-être vous accompagnera-t-il un jour sur la presqu'île de Crozon.
Kenavo Arvéchal, au revoir et à bientôt.
Dans un instant, ouvrez le dialogue avec Sarah Brunel.